gosta.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce jeudi 4 février. Dans un instant, on retrouve Romain Arras, qui depuis lundi nous raconte Nicolas Poussin, et plus précisément Nicolas Poussin et l'expérience de l'altérité dans un instant, le quatrième épisode. En deuxième partie, nous parlerons de cinéma et de la sortie en DVD de Jeanne d'Arc, la version Victor Fleming, réalisée en 1948, qui ressort en version restaurée avec quelques scènes supplémentaires, comme cela se fait. François Albera, qui est un professeur d'histoire du cinéma, qui nous vient de l'université de Lausanne, est déjà avec nous. Bonjour. Et nous parlerons ensemble, justement, de ce film. Et vous n'avez pas reconnu la voix du générique. Comment ça, 6 heures?
Trop peu de matière.
Jean Marais.
Ah, Jean Marais.
Dans Orphée, bien sûr. Ah. En tout cas, merci d'être venu. On se retrouve tout à l'heure à 6h15. Tout de suite, Tête chercheuse. Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité par Romain Arras. Bonjour.
Bonjour.
Quatrième épisode, intégrer l'autre au sein du même. Hier, on a vu comment Ruth Ebbers peut incarner l'intitulé de notre série, c'est-à-dire l'expérience de l'altérité. Est-ce que Nicolas Poussin va continuer à creuser ce sillon?
Alors oui, justement, cette thématique que nous avons relevée dans Ruth Ebbers n'est absolument pas isolée et elle occupe une place déterminante dans les derniers sujets bibliques de sa vie. Et en fait, entre 1660 et novembre 1665, le moment où il meurt, on a un gros problème de date. Par exemple, le cycle des saisons est daté entre 1660 et 64. On ne connaît pas l'ordre. C'est vraisemblable qu'il ait peint en même temps ces quatre tableaux, mais il y a beaucoup de flou. Et il se trouve que d'autres tableaux ont une datation qui fluctue beaucoup. Alors, en quoi c'est important? Eh bien, on peut penser que dans ces cinq années, il a peint donc le cycle des quatre saisons, la Samaritaine au puits, Eliezer et Rebecca, et le paysage avec Agar et l'ange. Et on constate que finalement, ces quatre scènes, j'inclus Ruth Ebbers, veulent dire la même chose. Et tournent autour de la question de l'étranger, de l'apport que l'étranger peut avoir. Et donc, la première œuvre sur laquelle on peut s'arrêter, c'est la Samaritaine au puits. C'est la première fois que Poussin représente cette scène, alors qu'elle est assez courante au XVIIe siècle. Et en fait, c'est un tableau perdu. On n'en a absolument aucune trace. On en a juste témoignage grâce à une gravure d'époque. Et Poussin en fait mention dans sa correspondance. Et une de ces gravures est exposée aujourd'hui au British Museum. La deuxième toile absolument remarquable et émouvante, c'est Eliezer et Rebecca, voilà, peint entre 60 et 65. La datation fluctue encore beaucoup. Et il a été peint pour Carlo Antonio dal Pozzo, le frère de Cassiano, et redécouvert assez récemment par Anthony Blunt, le grand spécialiste de Nicolas Poussin, qui l'acheta en 1933. Elle est aujourd'hui à Cambridge. Et c'est la troisième fois que Poussin représente cette scène, elle aussi assez populaire au XVIIe siècle. Ça veut dire qu'elle lui tenait particulièrement à cœur. Donc la première version date des années 20. Le tableau n'est pas visible parce qu'elle est dans une collection particulière. L'autre version, elle est un peu plus connue des Parisiens puisqu'elle est au Louvre, peint en 1648 et acquis dès la mort de Nicolas Poussin par Louis XIV, après un très rapide passage dans la collection du duc de Richelieu. Et le troisième tableau sur lequel j'aimerais insister, c'est le paysage avec Agar et l'ange. Et donc c'est la première fois là aussi que Poussin représente cette scène. C'est un tableau qui a été découvert assez tardivement, en 1960, par l'historien de l'art André Chastel. Il est conservé au Palais Barberini à Rome. Et donc ces quatre toiles sont issues du récit biblique, l'Ancien Testament pour Agar, Rebecca et Ruth, et le Nouveau Testament pour la Samaritaine. Et on va voir que les trois structures narratives, donc les quatre structures narratives, placent le rapport à l'autre et à l'étranger au centre. Mmh. La Samaritaine, donc c'est Jésus, qui rentre en Galilée depuis la Judée avec ses disciples et traverse la Samarie, située au nord d'Israël. Aujourd'hui, ça serait à peu près au niveau de Naplouse. C'est la sixième heure du jour, il est midi, il fait chaud, et Jésus et les siens décident de faire une halte dans un village pour acheter des vivres. Mais Jésus reste en retrait, à l'écart, et s'assoit près d'un puits. Une femme qui puise de l'eau pour sa maison est là également, et soudain, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et ce « Donne-moi à boire », donc c'est le moment précis que Poussin a décidé de représenter, et c'est un code en réalité. Et dans la Bible, on le retrouve à différents endroits, ce code est lié au mariage et à la demande en mariage. Donc le « donne-moi de l'eau » implique l'union et donc du coup la fécondité. Et la Samaritaine est extrêmement surprise, comme Ruth, parce que c'est anormal, voire illégal. Elle dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et en fait, il y avait également un interdit. Un juif de l'époque ne pouvait pas parler aux habitants de la Samarie. Et donc là, entre les deux tableaux, il y a un parallèle à faire entre Boaz et Jésus. Et il y a aussi un quiproquo sur la nature de l'eau. Et finalement, Jésus demande de l'eau, mais c'est lui qui va lui donner, puisque c'est de l'eau qui signifie la foi, en réalité.
Mais pourquoi il choisit pour cette allégorie de la dialectique de l'enrichissement mutuel grâce à l'accueil et à l'intégration de l'autre, l'expérience de l'altérité? Donc pourquoi il choisit que des figures féminines, Romain Arasme?
Eh bien, puisque le processus de l'altérité vise une fécondité, une richesse, une fertilité de la nature aussi, la figure de la femme s'impose logiquement. Et c'est vrai que dans la Bible, que ça soit la Samaritaine, Rebecca, Ruth, Agar, on a affaire à chaque fois à des femmes étrangères qui viennent régénérer, on pourrait dire rapidement, régénérer une lignée, une dynastie qui, sans elle, n'aurait pas pu voir le jour. Et donc, c'est le cas pour Ruth, on en a fait la démonstration, mais c'est également le cas pour Rebecca et pour Agar. Sans H en hébreu et avec un H en arabe, signifie celui ou celle qui a migré. Et en fait, Agar était une servante égyptienne, la servante de Sarah, femme d'Abraham. Donc là aussi, on est dans la Genèse, comme dans l'histoire de Rebecca. Et Sarah était stérile. Et donc du coup, elle demande à Agar, sa servante, de s'unir avec son mari, de s'unir avec Abraham, qui était alors âgé de 86 ans. Et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et fuit dans le désert, accouche d'Ismaël. Et finalement, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le contact avec l'étrangère produit, là encore, immédiatement la fertilité. À la fois pour elle-même et pour Sarah. Sans Agar, Sarah n'aurait probablement jamais pu mettre au monde Isaac, et là aussi, la généalogie du Christ serait tombée à l'eau. Là encore, et à mon sens, Poussin avait parfaitement compris cette rhétorique, là encore, l'intégration de celui ou de celle qui vient d'ailleurs, d'un autre pays, apporte richesse, fertilité et abondance.
Ce qui est une très bonne lecture, votre lecture, Romain Arras, mais de celle de quelques historiens de l'art. Mais puisque Nicolas Poussin écrivait, il reste des écrits de Nicolas Poussin, est-ce qu'il expliquait ces tableaux? Est-ce qu'il expliquait le sens de son allégorie?
Alors, justement, Poussin écrit, mais pas forcément à propos de ses tableaux. Il commente plusieurs de ses œuvres, mais elles sont rares. Elles sont surtout datées dans les années 30-40. Sur ces derniers sujets-là, on a aucune source directe. On a en revanche des conférences à l'époque même de Poussin, c'est le cas de La Manne. Une fois que le tableau qui représente justement La Manne arrive à Paris, il y a une conférence. Tous les historiens de l'art, entre guillemets, à l'époque, en vont de leurs petits commentaires. Mais Poussin ne s'est jamais véritablement exprimé sur le sens profond de ses dernières œuvres.
Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité, demain, dernier épisode. À demain, Romain Arasme.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture.
Et mon invité, qui est là depuis ce matin, depuis 6 heures, François Albera, professeur émérite. On dit comme ça à Lausanne?
Je crois qu'on dit honoraire, mais ça revient au même.
Bon, professeur émérite d'histoire et d'esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue 1895, revue d'histoire du cinéma. Et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de la réédition en DVD du Jeanne d'Arc de Victor Fleming, réalisé en 1948, version restaurée. Mais d'abord, avant de parler de ce film, pourquoi il y a eu tant de films autour de Jeanne d'Arc?
Alors, la question n'est sans doute pas propre au cinéma. Et pourquoi y a-t-il eu tant d'images, de récits, de pièces de théâtre, de poèmes, etc. autour de Jeanne d'Arc, de bandes dessinées sans doute également? C'est plutôt à partir du 19e siècle, si je ne me trompe, que démarre une iconographie abondante. Et puis, plus elle devient un personnage reconnu, Napoléon en fait une héroïne nationale. Et puis, elle est canonisée en 1920, après avoir été pressentie pour l'être en 1909. Donc tout ça relance évidemment l'aura autour de ce personnage qui va être ensuite revendiqué par un peu tout le monde de toutes parts et mise à la...
Pour le meilleur et pour le pire,
mise à toutes les sauces, si l'on peut dire. Oui.
Alors, en effet,
pour revenir à l'origine, cette fois du cinéma, dès l'origine du cinéma, c'est-à-dire dès Edison, production Edison, 1897, si je ne me trompe, les Frères Lumière, Méliès, Capellani, c'est un peu plus tard, 1909, il y a des Jeanne d'Arc. Et ça ne cessera pas jusqu'à nos jours.
Alors ce Jeanne d'Arc-là qui sort en DVD, celui de Victor Fleming, n'est peut-être pas le meilleur, à mon avis, hein, mais je voudrais avoir votre avis, François Albera. Moi, personnellement, je préfère celui de Dreyer, sans vouloir faire mon cinéphile de France Culture. Je préfère aussi celui de Rossellini, il est tellement plus libre, avec la même Ingrid Bergman. Mais le film de Victor Fleming est un film hollywoodien qui se voulait grand public.
Oui, vous n'avez pas cité celui de Bresson, de Jeanne d'Arc, qui est aussi une des grandes Jeanne d'Arc. Oui, il est une des Jeanne d'Arc ou un des Jeanne d'Arc qui s'est fait dans l'histoire du cinéma. Et je pense qu'en effet, on n'a pas glosé de manière très ample sur l'intérêt spécifique de ce film, enfin, ni pour l'inscrire dans l'œuvre de son réalisateur, Victor Fleming, qui est un réalisateur qui a fait des choses extrêmement diverses. Il a fait autant N'emporte le vent, il a fait Le magicien d'Oz, il a fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, voudrait-on, dans une perspective auteuriste, inscrire Jeanne d'Arc dans cette œuvre, puisque c'est le dernier film qu'il a réalisé, il est mort d'une crise cardiaque peu après la sortie du film, qu'on aurait sans doute du mal, encore que, bien sûr, on pourrait solliciter le personnage en armure qu'il y a dans Le magicien d'Oz pour le rapprocher de Jeanne d'Arc en armure, ou la guerre civile américaine dans Autant n'emporte le vent, avec cette France coupée en deux qu'offre la période de la guerre de Cent Ans, ou encore le dédoublement avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais je crois que ce serait vraiment un peu tiré sur la corde. D'autant plus que Victor Fleming n'est pas seul en cause dans cette affaire, loin de là.
C'est la question que je voulais vous poser, François Albéra. Est-ce que c'est un film de studio? Est-ce que c'est un film voulu par Ingrid Bergman? Parce qu'on sait qu'elle s'est attachée à ce personnage, qu'elle va l'interpréter plusieurs fois dans sa vie. Ou est-ce que c'est un choix de Victor Fleming? Est-ce qu'il faut parler de Victor Fleming quand on parle de ce Jeanne d'Arc?
Voilà, non, je pense en effet, comme je le disais à l'instant, que Victor Fleming ça aurait pu être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a eu d'autres hypothèses dans la période très proche de ce Jeanne d'Arc-là, de 48, dans d'autres studios. Et là, c'est porté, disons, par effectivement le désir d'Ingrid Bergman d'incarner Jeanne d'Arc à l'écran. Selznick le lui avait promis, elle avait pris sous contrat en lui disant qu'elle ferait une Jeanne d'Arc. Et elle n'a jamais eu cette occasion avant que son contrat s'achève, et à ce moment-là, elle a repris sa liberté. Et puis elle est allée solliciter Fleming, qui est producteur de son film. Enfin, producteur, c'est-à-dire, bien sûr, c'est pas lui qui a réuni les capitaux, mais enfin, il dirige la production, ainsi que Walter Wanger, qui sont des personnages intéressants sur lesquels on peut s'arrêter, n'est-ce pas, tous les protagonistes. Ingrid Bergman, Walter Wanger ou le scénariste du film, Maxwell Anderson, qui est un auteur dramatique qui avait écrit une Jeanne d'Arc pour la scène qu'avait interprétée déjà Ingrid Bergman avec grand succès sur les scènes new-yorkaises.
C'est ce qu'on reprochait à l'époque au film, c'est-à-dire d'être un peu trop bavard.
Ah, je sais pas si on peut dire cela. D'ailleurs, le dramaturge a quitté le bateau en route parce qu'il était mécontent des modifications qu'on apportait à son texte. Donc, je crois pas qu'on ait trop respecté le texte d'Anderson, en tout cas. On peut se demander, comme pour tout film, pourquoi on réalise ce film à cette époque. Alors on peut dire c'est parce que Ingrid Bergman le souhaitait ardemment, c'est vrai, parce qu'il y a une continuité, les biographes d'Ingrid Bergman le disent, elle rêvait de cela, on peut même remonter à des traumatismes d'enfance, elle était orpheline ou je ne sais quoi, et donc elle voulait, elle se sentait le personnage, mais on peut aussi se demander pourquoi on fait un tel film à cette époque.
Mmh. 1948, il faut le rappeler.
Voilà, 48, la pièce, elle est jouée déjà pendant la guerre. Et donc, là, il y a une résonance particulière de la thématique. Alors, de quelle thématique s'agit-il? Enfin, la guerre civile ou la guerre avec un envahisseur, un personnage charismatique qui emmène les troupes pour renverser le rapport de force. Donc, tout ça peut avoir des échos. Et certainement que pour ce Maxwell Anderson, qui était un écrivain de gauche, disons, quand il a écrit cette Jeanne d'Arc, il songeait au contexte de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. En 48, évidemment, le contexte a un peu changé. Néanmoins, quand on regarde ce film, je pense que c'est tout de même cette thématique qui est toujours là. Et le film a eu peu de succès, enfin disons pas peu de succès, mais il n'a pas eu le succès phénoménal auquel on aurait pu s'attendre aux États-Unis pour des raisons peut-être extérieures qui sont la vie personnelle, la vie privée d'Ingrid Bergman, mais en France, en revanche, il a eu un succès énorme. Ça a été un grand succès. Donc, il a été plébiscité. Et manifestement, quand on regarde le film, on peut se dire que ça devait créer dans le public français des échos par rapport à la situation qu'on venait de vivre. De Gaulle à Londres, l'envahisseur sur le territoire national, la nécessité de résister, enfin tous ces aspects sont là, et on peut penser que ça les ravivait. Alors, maintenant on devrait se demander pourquoi on édite un DVD avec cette thématique aujourd'hui. L'occasion se présente que de montrer la version complète, hein, comme vous l'avez dit, il y a des scènes supplémentaires, mais c'est même pas seulement ça, c'est que on n'a pas remis des scènes qui avaient été retranchées, on a fait deux versions du film. Donc Étant donné le, il faisait 2h20, la difficulté d'exploitation a fait qu'on a assez rapidement, devant la chute de la fréquentation des spectateurs, encore une fois dû aussi à ses raisons extérieures, la vie privée d'Ingrid Bergman qui avait quitté les États-Unis, qui s'est même fait condamner par le Sénat américain à ne plus remettre les pieds aux États-Unis, donc c'est assez violent, n'est-ce pas ?
Alors qu'elle a été quand même nominée hein, pour les Oscars pour son rôle de Jeanne d'Arc de Victor Fleming.
Absolument, le film a été nominé aux Oscars, il a été accueilli diversement, disons. Mais le problème, c'est que Ingrid Bergman a quitté son mari et ses enfants pour Roberto Rossellini, qui lui fera tourner une autre Jeanne d'Arc un peu plus tard. Et donc, Rossellini, qui lui-même a quitté une femme et des enfants, donc c'est ce double adultère était inadmissible et ça collait absolument pas, bien sûr, avec cette figure de pucelle qu'elle était censée incarner. Donc là, il y a eu une chute. Donc on a fait une version courte d'1h40 et alors l'intérêt de cette édition DVD c'est qu'on nous propose les deux versions. C'est ce qui est assez rare là, je crois qu'on peut s'en féliciter et même souligner le fait que ça soit assez peu courant dans les éditions DVD où l'idéologie un peu dominante c'est de dire on vous restitue le film tel que l'avait voulu le réalisateur, n'est-ce pas ? Il y a toujours ce discours. Alors s'agissant d'Orson Welles ou quelques autres, ça peut plus ou moins passer, encore que, parce que finalement, les cinéastes ont toujours admis, c'est pas, Renoir, plein de cinéastes, de faire plusieurs montages de leurs propres films. Mm-hmm. Mais bien souvent, on fait croire à l'acheteur du DVD qu'il va avoir affaire à la version définitive, etc. En fait, c'est une erreur d'appréciation sur ce qu'est un film, puisque les films sont sujets à des variables, et c'est même ça qui est intéressant. Donc, ça pose un problème quand on regarde la version longue de Jeanne d'Arc sur ce coffret, c'est de se dire, mais qui l'a vu cette version ? Et en particulier, si les Français ont plébiscité le film, c'est certainement pas cette version qu'ils ont vue, c'est la version courte, doublée en français. Et donc, si on se met à examiner l'accueil du film, non seulement le box-office qui a été important, mais si on se met à examiner la critique, comment il était accueilli ? Alors, on a coutume de dire que à l'extrême gauche, enfin le Parti communiste, l'Humanité a critiqué le film, tandis que à cause du contexte, on peut y revenir, tandis que à droite, on l'a exploité autrement. Mais de toute manière, de quel objet parle-t-on, n'est-ce pas ? C'est vraiment une question qui se pose. Donc là, on nous propose les deux versions. Et donc on est un peu mieux armé pour se dire que en 48 ou plutôt en 49 en France, c'est la version courte qui a été vue, donc on peut la regarder, voir comment ça fonctionne, et puis la comparer avec la version plus longue que Fleming avait et ses collaborateurs avaient, à laquelle ils avaient abouti.
François Albérard, s'il fallait terminer, est-ce que pour vous, Jeanne d'Arc est incarnée par Ingrid Bergman ? Vous préférez peut-être Florence Delay chez Bresson ou je ne sais plus qui chez Luc Besson ?
Vous avez deviné. Disons, incarné, oui, sans doute, même incarnat, je dirais, étant donné le technicolor, elle est incarnée, mais est-ce que c'est ce qu'il faut, incarner un personnage historique, n'est-ce pas ? Ce film, je pense, enfin, je vais peut-être pas m'étendre là-dessus, puisque vous me dites qu'on va finir, mais un film historique, c'est là où il est intéressant de comparer ce Victor Fleming avec d'autres propositions de Jeanne d'Arc, telles que celles qu'on a citées, que ce soit Dreyer, Bresson ou quelques autres, ou Rivette. Qu'est-ce que ça veut dire que de reconstituer et sur quelle base, etc. Et comment un personnage de 1948 peut se couler dans le, peut penser qu'il va correspondre à la mentalité d'une petite paysanne lorraine de 1420, n'est-ce pas? C'est tout à fait saugrenu. Alors, on peut
en même temps, c'est bien que chaque époque repose les questions sur les figures historiques.
C'est vrai, mais à ce moment-là, on fait le portrait de l'époque et pas le portrait, disons, du personnage historique visé. On peut dire que Bresson, en particulier, parce que je crois que c'est la démarche la plus légitime, il s'est fondé sur les textes, du procès. Donc, au fond, ce qui est indubitable et ce qui est un élément historique, même si c'est écrit par un intermédiaire, ce n'est pas la parole en direct de Jeanne, et qu'il se tient à ce texte. Donc là, il y a une littéralité qui, pour le moins, empêche de divaguer. Mais cela dit, Ingrid Bergman est très investie, manifestement, dans ce rôle qu'elle a voulu jouer, qu'elle a aimé jouer. Elle est très belle, bien entendu. On peut considérer qu'elle est irréelle, c'est-à-dire que l'incarnation s'accorde à une irréalité qui est ce visage lisse dans la bataille. Il n'y a même pas la suie ou la poudre des canons qui se
ouais, elle a 33 ans à l'époque.
Sur ses joues.
Merci François Albéra. Et pour une fois qu'on a un professeur émérite d'histoire et d'esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, vous allez rester avec nous pour le questionnaire d'un autre jour. Première question.
La plus belle réplique dans un film. Je ne saurais que dire. La plus belle réplique dans un film, je pense à la Marseillaise de Renoir, puisqu'on est dans le cinéma historique, et peut-être est-ce quand les insurgés qui ont pris le fort de Marseille délivrent un des prisonniers de l'Ancien Régime et que ce type dit avoir quasiment perdu la vue parce qu'il est enfermé dans une geôle sans lumière et qu'il demande de ce qui se passe à l'extérieur. Il dit « Ah, c'est formidable, la révolution au fond, est en marche et tout. » Il dit « Ah, je suis content pour vous. » C'est-à-dire que ce type qui souffre, qui est diminué, pense au collectif auquel il se rattache.
Deuxième question.
Le film que vous avez le plus revu. C'est une question difficile parce que quand on enseigne, évidemment, on regarde inlassablement certains films et quelquefois, c'est pas forcément parce que on les préfère. Mais je pense que si je pense à ma biographie, le film que j'avais le plus revu dans ma vie, c'est Pierrot le Fou.
De Godard. Et enfin, troisième question.
Le film que vous conseillez à vos pires ennemis. Mais bien, je ne sais pas, peut-être pas la Jeanne d'Arc, mais...
Mais
oui, ça n'en manque pas, Star Wars, parce que je déteste ce genre de cinéma.
Allez, merci beaucoup François Albéra, vous allez nous faire le générique de fin d'Un autre jour est possible.
Alors c'était Un autre jour est possible, une émission de Tefik Hakem, tous les matins à 6h ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, disponible sur franceculture.fr. Oui, il ne faut pas oublier. Pour vos remarques, suggestions et interrogations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels.
Facebook, Twitter, enfin vous connaissez ça.
Je n'en use pas, mais je ne doute pas que ça soit à disposition. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, nous avions Pierre Mine et c'était une réalisation de Thomas Duterre.
Voilà, la même équipe qui vous retrouvera demain matin à 6h pour Un autre jour est possible. Et avec Romain Arras, nous continuerons notre série consacrée à Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, la bande dessinée. Merci d'être venu. Je rappelle Jeanne d'Arc de Victor Fleming en plusieurs versions, la version longue et la version telle qu'elle est sortie en 1948, disponible en DVD. Bonne matinée.